Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. T'es sur le bout de ma langue. Se souvenir. Garder la trace. Porter mémoire. Ramener. Conserver. Réveiller, garder. Rendre au présent. Les défunts, les heures passées, les vécus, joie, terreur et peine. Garder en soi. Comme un trésor, les noms, les visages, dates, codes, numéros, mots de passe, clés, sésame, sésame, ouvre-moi. Rester intact aux sensations, un parfum, une madeleine trempée dans une cuillère de thé et c'est tout un paysage de petits papiers japonais qui se défroissent et déploient sous nos yeux les théâtres du passé, tant retrouvés, tant perdus. Temps voué à l'oubli, perdre la clé, s'égarer dans le labyrinthe, oublier. On raconte que les oiseaux ne savent pas écrire parce qu'ils ont trop de plumes sur eux et du coup ils savent pas laquelle choisir. On raconte que seul l'oiseau marabout sait exactement laquelle de ses plumes il peut arracher à son derrière pour écrire avec. Et on raconte que c'est pour ça que le tout premier chercheur d'histoire, qui vivait en Afrique de l'Ouest, a choisi l'oiseau marabout pour l'accompagner dans son voyage à la recherche des contes et des histoires. On raconte qu'ils sont partis ensemble un beau matin et qu'ensemble ils ont traversé tout le continent africain. Et on raconte que pendant leur traversée, tous les deux, ils ont écouté toutes les histoires qui étaient portées par la terre, les pierres, les bêtes sauvages, et puis le ciel, les nuages, le soleil, les pierres même. Et pendant qu'ils écoutaient les histoires, l'oiseau marabout, de sa bonne plume arrachée à son derrière, s'est mis à écrire toutes les histoires entendues sur des peaux de bêtes séchées. On dit que ça a pris un certain temps. Et puis, le travail terminé, on raconte que tous les deux, ils sont rentrés. Ils ont retraversé tout le continent africain. Et une fois arrivés chez lui, on raconte que le chercheur d'histoire était très embêté. Il était satisfait parce qu'il ramenait beaucoup de peaux, beaucoup d'histoires, beaucoup de mots, mais il était embêté parce qu'il ne voyait pas comment il allait faire pour toutes les assimiler. Alors, sur les conseils de l'oiseau marabout, il est allé chercher un grand récipient. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça un canari. Il a rempli le canari d'eau de pluie, puis il y a plongé une à une toutes les peaux de bêtes, puis il a laissé comme ça reposer toute une nuit, juste pour laisser le temps aux mots d'encre de bien se délayer dans l'eau. Et on raconte que sur les conseils de l'oiseau marabout, le lendemain, à la place du petit déjeuner, il a bu ça. Et que c'est comme ça que les histoires buent sont devenues les histoires sues. On raconte aussi que c'est depuis ce temps-là que les conteurs aiment bien boire un petit coup et que ça n'est pas toujours de l'eau. C'est pas faux. Cependant, si ça vous tente, vous pouvez vous y mettre vous aussi, buvez, mais choisissez bien ce que vous buvez. n'allez pas non plus avaler n'importe quoi, puis si vous choisissez de boire, buvez jusqu'au bout sans rien laisser au fond du verre, car à la moindre goutte oubliée, vous risquez le trou de mémoire.
Tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit.
J'ai attrapé ce conte d'Afrique de l'Ouest par la bouche de la conteuse Muriel Bloch. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte et j'en ai soufflé ma part. Je remets ce conte sous la pierre pour le suivant.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Quoi de plus naturel, de plus courant que d'oublier? C'est par ces mots que le journaliste Jean-Baptiste Marangou commence, pour Libération, son article critique sur l'essai de Harald Weinrich, publié chez Fayard en 1999 et intitulé « L'été ». Art et critique de l'oubli. Quoi de plus naturel, de plus courant que d'oublier? Et pourtant, quoi qu'on ait écrit des méthodes que pour développer la mémoire, oublier peut s'avérer aussi problématique que se souvenir et demande tout un savoir. Selon la mythologie grecque et latine, l'été est le nom d'un fleuve des enfers qui dispense l'oubli aux âmes des trépassés. Il faut boire de cette eau-là, moins pour ne plus regretter la vie que pour être prêt à d'autres réincarnations. Les Grecs eux-mêmes balançaient entre une conception valorisant au maximum la mémoire et une autre qui la disqualifiait car, encombrée, celle-ci finit pour ne pas laisser de place à la nouveauté. Que l'humanité allait vers une perte de mémoire, cela ne faisait pas de doute pour Platon, qui paradoxalement en faisait porter la faute à l'écriture, accusée de miner le fonctionnement, voire la nécessité de la mémoire humaine. L'âge d'or de la mémoire est à placer à la charnière entre Moyen-Âge et Renaissance, mais déjà, Rabelais ou Montaigne, lequel on le sait préférait une tête bien faite à une tête bien pleine, plaide pour l'oubli, comme une force culturelle digne de considération. Entre mémoire et fantaisie, c'est désormais la fantaisie qui l'emporte. Descartes, en insistant sur l'oubli méthodique, donnera une base philosophique quelque peu platonicienne à cette tendance que les Lumières, et surtout le romantisme, porteront à son accomplissement. On s'encombre la tête de trop de choses inutiles. Il faut apprendre à oublier. Noter, c'est oublier. La question est posée depuis l'invention de l'alphabet. Proust. Écrit pour échapper au contrôle de la mémoire du présent et mettre en branle la mémoire involontaire pour tirer de l'abîme, de l'oubli, des richesses insoupçonnées capables de vaincre le temps et peut-être la mort. Pour Freud, en revanche, le moteur de l'oubli, c'est la douleur. Faire remonter à la surface le passé revient alors à le neutraliser, à l'apaiser. Avec Auschwitz et le génocide du peuple de la mémoire, l'art de l'oubli trouve sa limite définitive. Un art et critique de l'oubli, écrit Harald Weinrich, peut aider alors à comprendre comment les individus, génération après génération, ont observé et observeront cet imprescriptible devoir du souvenir. Si l'interdiction d'oublier les crimes contre l'humanité a désormais force de loi, les témoins de l'Holocauste, d'Elie Wiesel à Primo Levi, se sont confrontés douloureusement à la fragilité des moyens dont dispose la mémoire de l'homme.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
En 2001, Zabou Breitman porte à l'écran Bernard Campan et Isabelle Carré dans le film « Se souvenir des belles choses ». Claire Poussin, Isabelle Carré, est une jeune femme discrète de 32 ans qui souffre de troubles de la mémoire depuis qu'elle a reçu la foudre lors d'une promenade en forêt. Sa sœur, plus inquiète qu'il n'y paraît, décide de la conduire au centre de mémoire Les Écureuils, où leur mère est décédée des suites de la maladie d'Alzheimer 5 ans auparavant. La jeune femme y rencontre un homme d'une quarantaine d'années, Philippe, Bernard Campan, qui a perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture et n'en garde ni souvenir, ni douleur. L'oubli est associé à la maladie, à la déchéance. Ici, c'est une jolie jeune femme qui s'inscrit en pointillé. Certains réagissent par la violence, les insultent, elles, tentent en répétant les mots de les graver ou en les écrivant pour en conserver la trace. Claire commence à revivre. Avec Philippe, elle va vivre une belle histoire d'amour.
Quand un bébé vient au monde, il connaît toute l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. Il est le gardien de la mémoire de l'humanité. Il sait tout. Tout. Il connaît tout. Depuis la découverte du feu jusqu'au produit light, les invasions, les guerres, la poésie, les souffrances, la famine, l'amour, j'ai envie de t'embrasser, les inventions, tout. Tout
quoi?
Ce qui est fait. Comment?
Qu'est-ce que vous avez dit?
La famine, tout. J'allais dire tout ce qui fait l'homme.
Non, avant, vous avez dit quoi?
Je me souviens plus.
Oh, pardon, J'ai cru. Je me suis trompée.
Oh, c'est pas grave. Donc le bébé, c'est tout. J'ai très envie de t'embrasser.
Et au moins. Vous l'avez redit, là, que vous avez.
Envie de t'embrasser? Ah oui, oui, oui. Très envie, oui.
L'ange?
L'histoire. Mais, donc le bébé c'est tout. Et au moment où il va pour parler, l'ange de l'oubli arrive et pose son index sur la bouche du nouveau-né en disant chut. Et le petit oublie tout et doit tout réapprendre. Voilà. Mais la preuve que c'est vrai, la preuve. C'est cette petite trace-là, laissée par le doigt de l'ange.
Emmanuel Saucourt est docteur en anthropologie spécialisé dans l'étude des littératures orales. Depuis quelques années, elle propose des formations autour de la pratique du conte et de ses effets auprès des malades d'Alzheimer. Dans le numéro 67 de La Grande Oreille, elle a publié un article autour de ces questions. Je vous en livre des fragments. Pour essayer de saisir les liens que tissent ensemble le conte et la maladie, il est nécessaire de faire un petit tour du côté d'Alzheimer. D'un point de vue médical, la maladie a été identifiée en 1906 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer chez un patient âgé de 51 ans atteint de démence présénile. Il a remarqué des lésions dans le cerveau. Ces lésions sont évolutives et engendrent une perte progressive de la mémoire et des codes de la relation aux autres. En somme, une maladie de l'effacement de soi et des autres. Dans une société du patrimoine, des commémorations, des célébrations, de la sauvegarde des données, de livres de mémoire, cette maladie est un trou noir qui engloutit toute la mémoire collective, tous les repères familiaux, tous les codes culturels. Mais lorsque nous considérons ces personnes en tant qu'êtres doués de vie, il est possible d'approcher la maladie d'Alzheimer non pas comme une accumulation de déficits, mais comme l'émergence de capacités résiduelles et de chemins relationnels différents. C'est dans ce changement focal que le conte traditionnel vient en résonance avec les personnes. Nous avons des personnes qui ont une grande conscience de leur état et des difficultés qu'elles rencontrent à se mettre en lien avec le monde et les êtres qui les entourent. Cette lucidité fugace les plonge dans l'infinie tristesse et parfois la violence. Pourtant, elles ont une mémoire corporelle très présente, nourrie par les cinq sens. Un imaginaire débordant et une grande envie de communiquer, mais elles ont perdu les codes et le langage. Elles ont perdu la carte qui les mène vers le monde extérieur, vers les autres. Mais quel est cet espace? De quoi parle-t-on exactement? Nous parlons d'imaginarius, une capacité humaine à se représenter le monde à l'aide d'un réseau d'associations d'images qui lui donne sens. Est imaginaire tout ce qui n'est pas vécu comme réel. Nous sommes pour une grande part de notre temps en mode digital dans notre relation au monde, stockage des informations et des connaissances. les personnes touchées par la maladie sont, elles, en mode analogique. C'est-à-dire qu'elles ont en dominance les compétences liées au cerveau droit. Capacité à faire image, à s'inscrire dans le présent, à faire sens avec les symboles, à entendre la communication non verbale, c'est-à-dire lire dans les émotions et les sensations. Nous entrons là dans ce qu'est l'essence même de ce qu'est le conte, dans ses mécanismes proches de ceux du rêve. Or, les mécanismes d'élaboration du rêve découverts par Freud ne concernent pas que le rêve. Ils sont les mêmes dans toute l'œuvre élaborée dans la pure oralité, à ceci près que le conte est un récit structuré et reproductible collectivement, même s'il est soumis à variantes. Ainsi, lorsque le conteur, la conteuse parle, que le conte se déploie, il ouvre pour chacun d'entre nous la porte sur le monde analogique. Et là où nous nous laissons glisser consciemment dans l'imaginaire, les personnes touchées par la maladie entrent dans un réel dont elles connaissent les codes et le langage. Les codes sont faire sens avec les images, le présent, la lecture symbolique du monde, la lecture des sens. Et le langage lui appartient au non-verbal, parce que l'on croit à tort que le conteur est un bavard, en fait. C'est aussi être dans l'économie de mots. C'est faire vivre des silences, les donner à entendre dans l'expressivité du corps qui révèle les images mentales du conteur. Quand vous assistez à un moment de conte avec ce public, vous assistez à un réel dialogue entre le conte et les personnes. Elles interviennent, prennent parti, invectivent le conteur, préviennent du danger le héros ou l'héroïne. Là où tout n'était que paroles désordonnées, les mots s'organisent, se structurent, communiquent. Les émotions se libèrent, certes, de façon anarchique, pleurent au lieu de rire, rire dans la tension du suspense, une libération qui délie les corps et éclaire les regards. Mais écoutons Emmanuel Soucourt parler de ses expériences.
Peut-être deux choses, moi, qui m'ont particulièrement marquée. Le fait que le conte, comme outil d'intervention auprès des personnes, un outil d'intervention, on va dire, culturel et social, a su recréer, comme il le fait souvent à chaque fois, des liens entre les personnes, entre les résidents, mais avec aussi les conteurs, avec les soignants, et finalement recréer comme une sorte de communauté d'écoute. Alors je sais que certains n'aiment pas le terme de communauté, mais on va dire de cercle d'écoute, où se rejouent finalement les liens sociaux. Et peut-être on peut dire que le conte a su réinscrire, redonner du sens à la vie sociale des personnes au sein des maisons de retraite et puis des services hospitaliers. Ça, c'est la première chose. Et puis, une deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait que certaines personnes se sont remises à parler. Le retour à la narration, pour moi qui suis anthropologue spécialiste du conte et de la littérature orale, la narration, c'est-à-dire des gens qui se sont mis à raconter des petites histoires, à faire des devinettes, à raconter des bribes de leur vie personnelle ou des choses qu'ils ont pu connaître dans leur vie. Et ça, c'était très, très étonnant, très passionnant. Ça a beaucoup marqué les soignants. Et je crois que c'est la chose qui les a effectivement les plus marqués. C'est ce retour à la parole. Ils ont l'habitude, ils nous l'ont dit, que des fois, de temps en temps, hop, il y a un patient qui se met à parler alors qu'on ne l'a jamais entendu. Mais vraiment, là, ce qui les a marqués, c'est le fait qu'ils racontent. Des bribes de leur vie ou d'autres choses. Voilà mon sentiment peut-être premier en tant qu'anthropologue et puis aussi, alors là il faudrait voir avec mes collègues en clinique, le fait que les personnes se sentent mieux, vont mieux, sont plus enjouées, plus souriants. Le professeur Ploton dirait effectivement que la dépression diminue beaucoup et les troubles de comportement qui y sont associés aussi. Et ça se ressent énormément.
La maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le cœur en surface. Christian Bobin, La présence pure.
Dans l'eau du temps qui coule à petit bruit, dans l'air du temps qui souffle à petit vent, dans l'eau du temps qui parle à petits mots et sourdement touche l'herbe et le sable, dans l'eau du temps qui traverse les mares, usant au front le rêve des statues, dans l'eau du temps qui muse au lourd jardin, le vent du temps qui fuse au lourd feuillage, dans l'air du temps qui ruse aux quatre vents et qui jamais ne pose son envol, dans l'air du temps qui pousse un hurlement puis va baiser les flores de la vague, dans l'eau du temps qui retourne à la mer, dans l'air du temps qui n'a point de maison, dans l'eau, dans l'air, dans la changeante humeur, du temps, sans heure et sans visage, j'aurais vécu à profonde saveur, cherchant un peu de terre sous mes pieds, j'aurais vécu à profonde gorgée, j'aurais vécu à profonde gorgée, buvant le temps, buvant tout l'air du temps, et tout le vin qui coule dans le temps, et tout le vin qui coule dans le temps.
Cette émission, je me suis amplement appuyée sur les travaux d'Emmanuelle Saucourt, qui partage également le fruit de ses recherches dans le cadre de formations qu'elle dispense au sein du CMLO, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale, implanté à Alès. Vous retrouverez toutes les références aux musiques et extraits sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.